Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast. Bienvenue à toutes et à tous. Avec ma femme d'aujourd'hui, on va aller faire un chemin intérieur loin d'être terminé et surtout loin d'être simple. On y va pour les détails.
Média, Yasmine, femme d'aujourd'hui.
Dina Alhelo, bonjour.
Bonjour Yasmine.
Merci beaucoup d'être ma femme d'aujourd'hui. Comment ça va la Dina?
Très très bien, je te remercie.
Un plaisir de te recevoir dans Femme d'aujourd'hui.
C'est un plaisir d'avoir cette conversation avec toi.
Alors, Dina, aujourd'hui, tu es ce qu'on appelle une accompagnatrice holistique. Tu accompagnes les gens à travers différentes dimensions, que ce soit le leadership, la santé, le bien-être, énormément de domaines, parce que finalement, tout est relié, et c'est ça la réalité des choses. Et moi, ce qui m'intéresse avant de discuter de ça, c'est de... Que notre communauté de femmes d'aujourd'hui apprenne à te connaître davantage, parce que ce voyage intérieur, toi, tu l'as mené il y a plusieurs années de cela. Et en fait, ton voyage intérieur a coïncidé avec un voyage géographique.
En effet, oui, absolument. Je me suis installée en Jordanie en 99-2000. Et on va dire que ce voyage a commencé là. C'était bien entendu suite à une épreuve du cœur. C'est par le cœur qu'on s'ouvre à soi, qu'on s'ouvre aussi au divin. Donc voilà, ça a commencé par là.
Une épreuve du cœur, c'est-à-dire ?
C'était un divorce.
Okay.
Un divorce et aussi une remise en question de mon être, de ce que j'étais et de vers quoi j'allais.
Alors, avant justement de t'installer en Jordanie, avant d'aller dans cette quête de soi, tu étais quel genre de personne ?
Écoute, j'ai toujours eu quelque chose qui m'appelait vers l'inconnu, vers tout ce que je ne connaissais pas. J'ai toujours été vraiment engagée à découvrir tout ce que je pouvais dans la vie, mais plus extérieurement qu'intérieurement. Donc j'ai toujours été une grande voyageuse, probablement de par l'éducation de mes parents, qui eux aussi voyageaient beaucoup, en particulier mon père. Et donc, je pense que cette soif de découverte, de connaissance du monde a toujours été là, mais j'étais plus dirigée vers les choses extérieures, on va dire. Donc, j'étais bien entendu beaucoup plus jeune. J'ai eu la chance de partir très tôt. J'ai vécu très longtemps aux États-Unis et en Europe, à Londres, à Paris. Mais j'ai passé beaucoup de temps aux États-Unis. Et des États-Unis, j'ai décidé d'aller vers la Jordanie. Bien entendu, à l'époque, j'étais mariée avec un Palestinien jordanien. Et lui ne voulait absolument pas aller en Jordanie, qui trouvait bien entendu tout petit, enfin un petit pays. Il n'avait même jamais vécu là-bas. Et moi, quand j'ai été visitée, c'était donc après la guerre du Golfe, la première, quelque chose m'a appelé dans ce pays et je demandais à ce qu'on aille habiter là-bas. Et donc, quand j'ai divorcé au bout d'un an, mais j'ai décidé de rester dans ce pays qui est mon pays d'adoption, que j'appelle mon royaume du cœur. Mon royaume du sang, c'est le Maroc, et mon royaume du cœur, c'est la Jordanie.
Mais c'est incroyable quand même, en fait, d'avoir cet appel d'aller dans un endroit où qu'on ne connaît pas du tout, de s'installer, et puis carrément de vivre un problème de cœur, comme tu l'as nommé tout à l'heure, un divorce, ce qui pourrait être considéré comme un échec, mais sur un environnement, sur un territoire géographique, et accepter et vouloir rester quand même dans cet endroit où on a vécu quelque chose de douloureux, alors qu'on est étrangère à ce pays.
Ben justement, c'était là où la révélation de ce mystère a pris forme, parce que quand j'ai divorcé, je n'avais pas encore d'enfant et tout, personne ne comprenait pourquoi j'ai décidé de rester en Jordanie alors que ça faisait que même pas un an que j'étais là, ou peut-être un an et demi. Et donc, vous savez, quand on n'arrive pas au divorce comme ça, donc c'était des mois avant le divorce qui était bien entendu très difficile. Et il y avait quelque chose qui m'a appelée dans la terre de ce pays. C'est un pays qui est très particulier. Les gens, ces gens qui habitent là-bas viennent pas seulement du pays, mais des environs, parce qu'il y a, c'est un pays de beaucoup de réfugiés. Mais c'était quelque chose qui m'avait appelé de la terre. Et je me souviens très, très bien de ce moment où j'étais dans ma voiture en train de conduire et je me disais, si je divorce, je vais rester ici. Et je ne sais pas pourquoi je vais rester ici, mais c'était quelque chose qui me prenait vraiment dans le plexus. Mmh. C'était un appel. Et je me suis dit, mais pourquoi je vais... Et tout le monde me posait cette question. Mes parents étaient entre le Maroc et les États-Unis. Ma sœur habitait à Paris. J'avais aucune raison d'être... Et puis, je venais d'arriver de New York. Donc, la Jordanie d'aujourd'hui n'était pas la Jordanie d'il y a 26, 27 ans. Donc, c'était encore un pays beaucoup moins développé, on va dire. Et pourtant, quelque chose m'a dit, tu restes ici. La terre, la couleur de la terre, la couleur de la pierre, et aussi les gens. J'ai rencontré certaines personnes où je me suis dit, ben, j'ai trouvé une famille de cœur, une famille spirituelle, sans vraiment savoir vers quoi j'allais.
Oui.
Donc j'ai été vraiment à l'encontre, bien entendu, de mes parents et de toute la société en général, de mes amis qui ne comprenaient pas. Et j'ai commencé vraiment à zéro. Je me souviens, j'ai pris un appartement et j'ai mis un matelas par terre et j'ai dormi sur ce matelas par terre pendant une semaine.
Tu travaillais, tu étais dans l'enseignement à ce moment-là, aux États-Unis avant?
Oui, aux États-Unis. Mon premier job, c'était d'enseigner dans une université. Et puis ensuite, en Jordanie, donc quand je suis arrivée après le divorce, j'avais rien. Je travaillais pas vraiment et puis j'avais rencontré cette amie qui aujourd'hui est vraiment aussi une sœur de cœur et d'âme et elle m'a dit mais pourquoi tu n'enseignerais pas? Je lui ai dit oui et puis donc j'ai eu quelques interviews et j'ai tout de suite eu un boulot dans une école et en même temps je me suis aussi mise un peu au journalisme et j'ai commencé à écrire et à être publiée toutes les semaines dans le journal qui s'appelle le Jordan Times. Et puis voilà, donc j'ai commencé comme ça à zéro. Et c'est là où la quête intérieure, où ce voyage intérieur a débuté, parce que j'ai rencontré des gens extraordinaires qui m'ont ouvert à la spiritualité.
Mmh. Alors, donc, une question peut-être, si je peux me permettre, Dina, c'est quand on est, entre guillemets, fauché, à un moment, divorcé, seul, est-ce que tu n'as pas eu peur finalement de rester, de tout reprendre à zéro, de reprendre une nouvelle vie en fait dans un endroit que tu ne connais pas?
Cette peur a toujours été chez moi un drive, quelque chose qui m'excitait quelque part. C'est comme si ça a toujours été quelque chose. J'avais peur, certes. Moi, la peur, j'ai compris quand je commençais ce voyage et c'est là où j'ai commencé à travailler sur moi, à avoir des professeurs extraordinaires, enfin des maîtres, des guides extraordinaires pour faire ce travail personnel. Et je me souviens, cette année-là, cette peur qui pouvait être très paralysante parfois, j'ai décidé d'en faire ma meilleure amie parce que j'ai compris qu'elle n'allait jamais me quitter. Et j'ai compris aussi que la peur était une sorte de protection. Et que quand elle allait au-delà de son rôle de protection, elle devenait paralysante. Mm. Mais quelqu'un qui te protège avec amour, parce que c'est ce que ta peur est pour toi, elle te permet aussi d'avancer. Nous avons peur pour nos enfants. Quand nous les voyons grandir, nous les laissons aller pour la première fois à l'école, etc., nous avons peur. Mais nous les laissons faire. Donc, en ayant peur, on continue d'avancer. Donc, j'ai décidé d'apprivoiser cette peur. Et je me souviens, j'avais lu cette quote, « Feel the fear, but don't fear it. » ressent la peur, mais n'en ait pas peur.
Peur, ouais.
Donc, je la ressentais, elle était là, dans ma chair, mais je savais que, quelque part, j'ai toujours eu une très grande foi. Je me suis toujours considérée comme étant bénie de Dieu. Et donc, je savais que si je suivais cet appel sans savoir où il allait m'emmener, je savais que j'allais arriver à bon port. Mmh. Et c'est ce qui s'est passé.
Alors, c'est aussi vraiment apprendre à lâcher prise totalement.
Je ne suis pas très partisane du terme lâcher prise, parce okay. que c'est un peu erroné. Enfin, c'est un peu lâcher prise. C'est très facile à dire, mais mais en réalité, c'est pas quelque chose que l'on fait naturellement. Parce que, comme j'ai dit, ne pas lâcher prise, c'est laisser la peur nous guider. Et la peur, elle est toujours là. Donc elle nous accompagne. Donc quand on a, c'est notre voilà. Moi, j'en fais ma meilleure amie, et puis aussi j'en fais mon guide. Dans le sens où si j'ai très très peur de quelque chose, c'est exactement ce que je vais faire.
Ça, c'est magnifique.
Moi, j'avais une peur bleue de l'océan. Enfin, j'ai toujours eu des rêves de raz-de-marée depuis que je suis petite. Je suis persuadée qu'au Maroc, quand j'étais petite, il y a eu un petit raz-de-marée. Je suis sûre de l'avoir vu. Bref, peu importe. Et donc, ma plus grande hantise, c'est les fonds marins. Et j'ai passé mon certificat de plongée parce que c'était à cette époque d'ailleurs. C'était en 2002. Donc, ça faisait 2 ans que j'étais dans ce voyage intérieur, dans ce développement personnel. Et j'ai pris ce certificat de plongée comme le diplôme. Pour moi, c'est mon diplôme le plus important. Mmh. Comme le diplôme que cette peur allait devenir ma meilleure amie, que j'allais l'apprivoiser et surtout... avec beaucoup de douceur et de gentillesse.
Alors, on dit que quand on commence cette quête intérieure, en fait, on n'en sort jamais. Même aujourd'hui, ça ne s'arrête jamais. Il y a une autre expression, je ne sais pas si tu la trouves réductrice, ou « trouver la meilleure version de soi-même ». C'est un slogan aujourd'hui. Est-ce que quand on est dans ce cheminement, comme toi, depuis plusieurs années déjà, depuis plusieurs décennies, et qui continue et qui ne s'arrête pas, c'est quoi le moteur ?
Le moteur, c'est que tu vas toujours découvrir une nouvelle facette de toi que tu ne connais pas. Il n'y a rien qui peut te réduire à quelque chose de limité. Par définition, l'homme, avec un grand H, c'est-à-dire l'être humain, par définition, il est illimité. Tu ne peux pas te mettre dans une cage. Et c'est très souvent ce que beaucoup de gens font, c'est qu'ils se mettent dans des cages en disant « je suis comme ça, je pense comme ça, moi je ne fais que, c'est ma façon de faire ». Ok, tu es comme ça pendant ce moment, ce stade de ta vie. Mais quand tu vois ton passé, tu n'as jamais été le même. Donc, tu es en transformation et en découverte de soi permanente. Donc, le moteur, moi, aujourd'hui, je suis une Dina que je ne connaissais absolument pas il y a 6 mois. Et ça, je peux... Beaucoup de gens autour de moi qui sont très proches peuvent vous le dire. Donc, le moteur, c'est que tu n'arrêtes jamais de te connaître. Et toutes les épreuves et toutes les belles choses vont toujours te révéler des nouvelles facettes de toi qui naissent tous les jours. Donc, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de fin jusqu'à ce que tu partes oui. de cette dimension, oui. en tous les cas.
Est-ce que c'est un cheminement qui est réfléchi ou est-ce que tu laisses les choses venir à toi ?
Ça dépend des moments. Il y a des moments où il faut prendre les rênes parce qu'il y a des décisions à prendre. Il y a des choses qui sont très difficiles à faire. Il y a des conversations difficiles à avoir, pas qu'avec l'autre, parfois avec soi.
Ça, ouais.
Et donc, dans mon accompagnement, quel qu'il soit, la chose toujours que je répète, c'est dans ce cheminement, c'est d'abord allumer la lumière de ton dialogue interne. Parce que tu as des voix qui te parlent tout le temps. et parfois elles sont contradictoires, et puis certaines vers lesquelles tu vas aller de manière plus naturelle parce que c'est ton schéma, parce que c'est plus facile. Et c'est ce qu'on appelle dans notre cheminement spirituel aussi. C'est pour ça que mon accompagnement, j'utilise le terme holistique, il est galvaudé, il est tout ce qu'on veut, mais il n'a pas de limite. Parce que c'est aussi un cheminement qui est en adéquation avec les croyances que tu as de toi. Parce que moi, je ne peux travailler qu'avec ce que tu penses de toi. Et ce que tu penses de toi, ce sont des paradigmes, des croyances, et que parfois, qui peuvent te limiter, être des obstacles, et tu peux pas briser un obstacle comme ça brutalement.
Frontalement,
ça n'existe pas.
Ouais.
De toute façon, on le dit que ce qui résiste persiste, donc c'est pas possible. Mais parfois, on va rester dans un schéma pendant longtemps, pendant des années et des années et des années. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de bon moment pour travailler sur soi. Il n'y a pas de mauvais, et ça s'arrête jamais. Moi, j'ai connu certaines personnes qui sont extraordinaires, qui se sont découvertes à 65 ans, à 70 ans.
Ça veut dire quoi, se découvrir, justement ?
Se découvrir, c'est ce que je viens de dire peut-être. C'est mettre la lumière de la conscience, la lumière de la conscience, c'est comme c'est comme un rayon de soleil pour éclairer toutes les parties à l'intérieur de toi dont tu n'as pas conscience. Donc ça peut être ce qu'on appelle ton ombre, les choses dont tu as peur, les choses dont tu as honte, les choses que tu n'oses pas avouer. Et dans ce cheminement, ce n'est pas un cheminement facile, hein, loin de là, parce que moi, je me souviens au début avec ma prof, je me souviens la deuxième ou la troisième année, parce que c'est plus qu'une formation, c'est une découverte sur 4 ans, mais qui ne s'arrête jamais, bien entendu. Et je me souviens, une fois, je lui ai dit, je te déteste tellement parce qu'aujourd'hui, je n'arrive plus à faire comme si de rien n'était. Et on ne peut plus se mentir. Voilà. On peut revenir, mais on va se mentir sur sur des nouvelles couches qui vont émerger. Mais sur celle sur laquelle on a mis la lumière, c'est fini, on ne peut plus se mentir.
Ouais. Alors, tu as dit, il y a des conversations très difficiles à avoir avec soi. Est-ce que tu te souviens de cette conversation la plus difficile que tu aies eu à avoir avec toi-même ?
J'en ai eu encore récemment. J'en ai tout le temps. J'en ai régulièrement parce que moi, il y a aussi ce qu'on appelle être régulier, être consistant. Donc moi, je passe un moment, je médite tous les jours et j'écris tous les jours. Et quand j'écris, donc c'est une condition en général quand j'accompagne les gens, c'est de commencer un journal. Mais c'est pas un journal d'écriture où je vais écrire ce que je vais faire, c'est pas un agenda, on va dire, et ce n'est pas non plus ce truc de gratitude ou des trucs comme ça,
oui,
non. C'est mettre la lumière du jour, donc la lumière du jour extérieure, ce qui se passe dans ta tête. Donc tu prends le stylo à la voix prédominante dans ta tête, et tu écris ce qui se passe, sans aucune autocensure, et sans objectif de te relire. Et dans cet exercice, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on commence à se révéler des choses qui peuvent être très, très dures. Je peux me dire, mon Dieu, mais tu as été odieuse avec toi. Mon Dieu, mais tu as fait preuve d'une jalousie. Mon Dieu, tu as fait preuve de petitesse. OK ? Et ce sont des choses que l'on vit tous les jours. Donc, pouvoir se les dire ouvertement, pouvoir se les dire de manière candide, c'est très libérateur et c'est aussi très honnête. C'est avoir une relation vraiment honnête avec soi. Et de toutes les façons, toutes les relations que nous avons avec les autres sont le reflet des relations que nous avons avec les différentes parties de nous.
Est-ce que ça te fatigue parfois, Dina ?
Est-ce que ça me fatigue ?
Oui.
Je commence à être fatiguée de moi-même, avec qui je vais vivre.
Non, mais ma question, elle est vraiment au ras des pâquerettes, hein, premier niveau, vraiment ground zero, comme on dit. Cette remise en question constante, cette conversation avec soi, cette aller à la découverte de ses facettes inconnues, etc., ce cheminement qui ne s'est pas arrêté depuis des décennies, est-ce que parfois tu as envie de te dire, mais j'aurais tellement voulu, excuse-moi l'expression, être moins consciente et plus bête de ma personne?
Ah, mais je viens de te le dire. Une fois, je l'ai dit de manière. Là, je l'ai dit. Là, j'ai fait la version gentille de ce que j'avais dit avant.
Ouais.
Mais je l'ai dit d'une manière très brutale.
Mm.
Parce que quand on commence à. Voilà, bien entendu, il y a des moments où tu te dis ça aurait été beaucoup plus facile de ne pas savoir,
oui.
De ne pas savoir tout ça sur moi. Mais en même temps, on va se le dire sur un moment de colère. Mais au fond, ce n'est pas vrai.
Mm.
Dans le fond, ce n'est pas vrai. Et c'est pour ça qu'on appelle souvent on l'appelle le chemin du guerrier.
Mmh.
C'est le chemin, voilà, il y a le livre Le chemin du guerrier de la lumière, d'ailleurs que je recommande, que j'ai lu il y a des années, mais je sais qu'il y a un livre qui s'appelle comme ça. Et le chemin du guerrier de la lumière, c'est ça, c'est ce chemin qui est très très difficile. Parce que je reviens à Jihad 9. Mmh.
C'est exactement
ça. Et
c'est
dans ce Jihad 9, voilà, c'est pour ça qu'on est là.
Mmh.
Enfin, pour moi, la vie est une école. Et c'est l'école de quoi? C'est l'école de soi.
Mm.
C'est l'école où tu apprends sur toi et tu réalises que tu es une création divine juste phénoménale et qui est illimitée.
Mm.
Et qui est très puissante.
Alors aujourd'hui, peut-être pour conclure, avec cette nouvelle mode justement du développement personnel, qu'est-ce que tu prendrais, qu'est-ce que tu garderais et qu'est-ce que tu enlèverais de ce que tu vois autour de toi?
Bon, aujourd'hui, d'abord, c'est devenu quelque chose de commercial. À l'époque, nous, moi, je me souviens, à l'époque, il y avait pas tout ce qu'il y a sur Internet, il y avait pas de réseau, il y avait pas de partage. C'était le on va dire l'univers qui allait te mener vers des communautés qui étaient dans ce chemin, mais qui ont toujours existé depuis le début des temps. Aujourd'hui, qu'est-ce que je prendrais? D'abord, ne pas faire ce qu'on appelle spiritual shopping, c'est-à-dire si les gens décident de suivre une école, enfin, ou de suivre un chemin, de ne pas se disperser, parce que la dispersion, c'est vraiment la mère de tous les diables par rapport à soi, pour moi. Et puis trouver une personne qui soit cohérente, comme on dit en anglais, that walk the talk, et faire très très attention aux vendeurs de miracles. Tout ira bien quand tu feras ça. Non, ça n'existe pas. Donc, faut faire attention à ça. Pour moi, c'est quelque chose. Mais en même temps, c'est pas une mauvaise chose parce que ça se démocratise, parce que les gens, parce qu'il y a plus de conscience. Donc, il y a du bon et du moins bon. Ça dépend de vers où on se dirige et qu'est-ce qu'on aspire, à quoi on aspire réellement.
Je comprends parfaitement. En tout cas, Dinah Lhlou,
voilà.
Merci infiniment d'avoir été ma femme d'aujourd'hui et merci pour ce regard vraiment honnête sur ce travail personnel.
Merci à toi, Yasmine. Merci pour ton invitation et au plaisir de te rencontrer de visu, j'espère, bientôt.
À très vite, j'espère.
Merci à toutes et à tous pour votre confiance. Femme d'aujourd'hui et sa version homme, c'est du lundi au vendredi sur les ondes de Média et à tout moment, à la demande et en avant-première sur Média Podcast et les plateformes de podcast habituelles.